radio sans nous, radio sans nous, radio sans nous, radio sans nous.
La cloche a sonné, ça signifie.
Vous écoutez Radio sans nous, Radio sans nous, la radio qui émet en direct, mais pas du même salon. C'est une radio qui fonctionne grâce à un salon virtuel. On n'est pas ensemble, mais on essaye de parler ensemble dans vos oreilles.
Mais oui, l'école est finie.
Radio sans nous, une radio créée par des militants et des militantes des CMEA Pays de la Loire, qui est ouverte à toutes les personnes qui auraient envie de nous envoyer du son. Vous pouvez nous écrire sur radio.sansnous, S-A-N-S-N-O-U-S, at CEMEA-PDLL comme pays de la Loire.org.
Bien fini de penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie.
Vous pouvez discuter avec nous sur notre chat, sur chat comme un chat, chat.koumbit.net, sur le canal hashtag Radio sans nous.
On s'amusera, quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie.
Retrouvez toutes les informations et les podcasts de Radio Sans Nous sur covid19.cmea-pdll.org.
De la joie vient.
Mais oui,
l'école est finie. L'école est finie.
Tous les midis, c'est la criée. On crie et on lit des textes et des petits messages que vous nous auriez envoyés sur le chat ou par mail. Et puis, on enchaîne avec un livre humain, une histoire de vie qui nous est contée dans nos oreilles. Et on vous présente un jeu. Tous les soirs à 20h, on vous lit une histoire. Le mardi et le vendredi à 19h, on chante avec vous. Et le jeudi et le dimanche à 16h, c'est la tournée générale. On vous invite à nous écouter pour notre émission généraliste. Et le jeudi soir, tous les jeudis soirs sur Radio Sans Nous, c'est scène ouverte. Bientôt, de nouvelles programmations sur covid19.cemea-pdll.org.
Moi je mets les pieds dans l'eau, même quand il ne fait pas beau. Moi je mets les pieds dans l'eau et je saute comme les crapauds.
Les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau.
Quand je mets les pieds dans l'eau, les chaussettes et les crapauds.
Moi je mets les pieds dans l'eau, même quand il ne fait pas beau.
Moi je mets les pieds dans l'eau et je saute comme les crapauds.
Les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau.
Quand je mets les pieds dans l'eau, les chaussettes et les crapauds.
Moi je mets les pieds dans l'eau, même quand il ne fait pas beau.
Moi je mets les pieds dans l'eau et je saute comme les crapauds.
Les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau. Comme les crapauds, je trouve ça très rigolo.
Il est bien 20h sur Radio Sans Nous et vous écoutez l'émission du soir. Voilà, il est l'heure de commencer à vous raconter des histoires. Ce soir, Cécile va vous lire Tibili et la gazelle. Puis, Épaminondas.
Tibili et la gazelle, une histoire de Marie Léonard. Il ne faut pas croire que Tibili ait pu capturer une gazelle. Non, la gazelle de Tibili n'a rien à voir avec cette grande chèvre distinguée qui court dans la brousse. Celle de Tibili est tout simplement un train qui va d'Abidjan à Ouagadougou. Comme la tortue, il se hâte lentement. Voilà pourquoi, pour rire, on l'appelle la gazelle. Tibili va se promener tout le temps près de la gare. Sur la grande place, il y a beaucoup de monde. Au milieu de cette foule, Tibili se dit qu'il pourrait bien se faufiler dans le train sans payer. Il choisit un wagon de marchandises. Personne ne viendra me chercher là, pense-t-il. Entre deux sacs bien pleins, il trouve un petit creux. Le train s'ébranle. Et voilà, on est parti. Mais le train s'arrête déjà. Un coup de train brusque fait tomber les sacs remplis d'ananas qui se répandent sur le quai. Le chef de train se précipite.
« Que fais-tu là ? » crie-t-il en voyant Tibili.
« Je vais à Boisquet. » Pourquoi ne montes-tu pas avec les voyageurs ?
Parce que je n'ai pas de billets.
Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'argent. Le chef de train prend Tibili par le bras. Va-t'en d'ici et rentre chez toi. Tibili n'insiste pas. Il descend du train et file comme une flèche jusqu'à la case. Le temps passe. Tibili décide de tenter une nouvelle aventure. Cette fois, il montera dans le wagon de voyageurs. Il repère un wagon vide. Il y a des filets à bagages profonds. Et Tibili pense qu'il y sera très à son aise. Le train démarre dans un bruit de ferraille. Tibili est tout secoué, mais il est tellement content qu'il oublie de se plaindre. Un coup de frein brutal jette Tibili en bas de son filet. Il tombe sur la tête d'un vieux monsieur. Les femmes rient, les femmes crient. Un homme tire la sonnette d'alarme, un employé arrive. Il pose des questions à Tibili, qui répond en hésitant. Une dame le prend sur ses genoux. Tu descendras à Boaké. Là, tu prendras un taxi brousse qui te ramènera chez toi. Tibili ne retient qu'un mot. Taxi brousse ! Quelle veine ! Comme c'est beau le paysage qui défile derrière la vitre, la savane, avec ses grandes herbes jaunies, des arbres grands, petits, et le fleuve immense. Le train s'arrête, Boaké. La dame le fait descendre, le conduit à un taxi brousse et le recommande au chauffeur. Puis elle lui fait un gros bisou d'adieu. Oh, un troupeau de gazelles, des vraies celles-là. Oh, comme elles sont belles. Un gros éléphant suivi d'un tout petit. Que de choses à raconter à papa, maman, et à ses frères et sœurs quand il va rentrer. Oh, pourvu qu'il ne soit pas trop fâché. Mais sa tête dodeline à droite, à gauche, ses yeux se ferment. Tibili dort, Tibili rêve. Pendant ce temps, le taxi brousse s'arrête sur une des places d'Abidjan. Qui arrive donc à grands pas ? C'est papa. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Tibili ouvre les yeux. Il voit que son père fronce les sourcils et que sa mère pleure. Décidément, c'est bien de partir, mais c'est encore mieux de revenir, pense Tibili en se jetant dans les bras de sa maman.
Trois petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. Trois petits moutons qui couraient dans la neige, il y en a un qui fond, il reste petit mouton. Deux petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. Deux petits moutons qui couraient dans la neige, il y en a un qui fond, il reste un petit mouton. Un petit mouton qui courait dans la neige, tout blanc, le joli manège. Un petit mouton qui courait dans la neige, il y en a un qui fond, il reste plus petit mouton.
Épaminondas, un livre de Odile Velers et Kirsty Chaplet. Le premier chant du coq réveille Épaminondas. Il s'assied sur sa natte et attache son pagne. Puis, il met autour de son cou une petite flûte taillée dans un morceau de bois et un chapeau sur sa tête. Épaminondas pend à son épaule un léger sac de bandes de coton et ouvre la porte de la hutte en disant « Passe une bonne journée, ma mère. Salue ta marraine de ma part et tire bien les seaux du puits. Ne t'inquiète pas, je serai aussi fort que le général Épaminondas dont tu m'as donné le nom. » Au lever du jour, oiseaux et animaux reprennent joyeusement leur conversation et la brousse se remplit de chants et de cris. Épaminondas avance pieds nus sur la terre rouge à travers les hautes herbes qui fouettent le visage. À l'heure où le sol commence à brûler la plante des pieds, il s'arrête à l'ombre d'un grand baobab qui s'élève près de la première case du village. Là, il prend sa flûte et joue quelques notes. Sa marraine apparaît sur le seuil de sa case. Sa marraine n'est pas n'importe qui. Elle pèse 100 kilos. S'habille de 3 boubous superposés et porte un turban sur sa tête ronde. En apercevant le petit garçon, elle sourit de toutes ses dents, belle et blanche comme l'ivoire. « Bonjour, Épaminondas, tu es le bienvenu. Bonjour, marraine Ba, et que la paix soit avec toi. Je te donne le salut de ma mère. Je te remercie pour tes bonnes paroles et d'être venu remplir mes jarres. » Épaminondas saisit derrière la case une grande jarre de terre cuite, la pose sur sa tête et s'achemine vers le puits du village. Plusieurs femmes font la queue pour puiser l'eau et Épaminondas attend son tour. Alors, il lance et relance le seau au fond du puits jusqu'à ce que la jarre soit pleine, puis la soulève et la pose sur sa tête. Il revient 7 fois et remplit 7 grandes jarres pour les 7 jours de la semaine et, suant et soufflant, il pénètre dans la case. La lourde marraine, dans sa chaise de repos, lui dit « Tu as affronté la chaleur du soleil. Maintenant bois, mange et repose-toi. » Épaminondas se désaltère de lait au miel, croque une galette de mil, quelques dattes et s'allonge sur la natte. « Maintenant, dors, mon enfant, c'est l'heure de la sieste. » Dans la bonne odeur de sa marraine et le doux bruit de ses soupirs, Épaminondas s'endort. Après la sieste, pour le remercier, marraine Ba lui donne une friandise appétissante. « Voilà !» un morceau de gâteau à la noix de coco que tu ramèneras dans ta maison. Je te dis merci et je vais le mettre dans mon sac. Ce n'est pas une bonne idée, mon garçon. Il s'abîmera dans ton sac. Il vaut mieux que tu le tiennes bien serré dans ta main. En chemin, Épaminondas suit exactement les conseils de sa marraine et serre de toutes ses forces la friandise. Ses 5 petits doigts font de grands trous dans le gâteau. La pâte s'effrite en miettes qui s'égrènent sur le sol et la crème de noix de coco se répand sur sa main en longues traînées poisseuses. En le voyant arriver, sa mère pose son pilon, met les mains sur ses hanches et écarquille les yeux. « Épaminondas, que m'apportes-tu là ?» Un bon gâteau à la noix de coco que tu m'as donné, ma marraine. Sa mère hoche la tête. Épaminondas, Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance? Pour bien porter un morceau de gâteau, tu dois l'envelopper dans du papier fin, le mettre dans ton chapeau et poser le chapeau sur ta tête. As-tu bien compris? « Oui, maman. » La semaine suivante, Épaminondas retourne chez sa marraine. Il fait tellement chaud que les feuilles de baobab pendent tristement et que marraine Ba n'a pas la force de quitter sa chaise de repos. Épaminondas entre donc et s'incline. « Bonjour, marraine Ba. Tu es partie de chez toi et tu es venue par cette chaleur. Je t'en remercie. » car mes jarres sont vides. » Épaminondas part remplir les 7 jarres, puis revient boire du lait au miel et manger des galettes fourrées de dattes. « Rends-moi service, mon petit, » demande la marraine, « et vente-moi, car il fait si chaud, je n'arrive pas à m'endormir pour la sieste. » Épaminondas prend un rond de paille et l'agite devant le visage parfumé de sa marraine. Quand elle sourit de bien-être, il se couche à son tour sur une natte. À son réveil, marraine Ba lui donne un gros morceau de beurre et lui dit « Fais-y bien attention pendant le voyage. » « Ne t'inquiète pas, marraine Ba, je suis un garçon très obéissant. » Une fois parti du village, Épaminondas prend dans sa sacoche le papier fin qu'il avait emmené, dépose le beurre dans le papier dans son chapeau et le chapeau sur sa tête. Et comme il fait très très chaud, le beurre ramollit et se met à fondre. Des petits ruisseaux jaunes dégoulinent sur ses cheveux, sur le front, sur le bout du nez et même sur les pieds. En le voyant arriver, sa mère pose son fagot de bois, met les mains sur ses hanches et écarquille les yeux. « Épaminondas, que m'apportes-tu là ? Du beurre bien frais que m'a donné ma reine bas. Épaminondas, Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance ? Pour transporter du beurre, tu dois l'envelopper dans de larges feuilles fraîches et le long du chemin le tremper souvent dans l'eau du puits ou d'une mare. As-tu bien compris ? Oui, maman. » La semaine suivante, une violente pluie tombe pendant la nuit, transformant la terre en boue pendant Pourtant, Épaminondas se dépêche, pressé de connaître le cadeau que sa marraine lui offrira. Dès qu'il arrive au pied du grand baobab, il crie « Bonjour marraine, je te souhaite le bon matin !» La marraine n'a pas fini de s'habiller et sort de sa case vêtue d'un sous-boubou blanc. Elle sent bon le parfum à Oussa et sourit de ses belles dents blanches. « Bienvenue, mon garçon. Tu sais honorer ta marraine par de bonnes paroles. Pendant que tu rempliras mes jarres, j'irai faire une course. Une course pour moi ?» Marraine Bas ne répond pas, enfile ses sandales sur le pas de la porte et s'éloigne. Ensuite, il rentre dans la case, boit, mange, attend le retour de sa marraine. Il grille de curiosité, il écoute les bruits du village. Coups de pilon, voix qui rit et bavarde, bêlement de chèvres, et soudain un aboiement plaintif tout proche. Alors Marraine Bas apparaît, tenant un petit chien blanc dans ses bras. « C'est pour toi, » dit-elle. Oh, « Merci, merci !» s'exclame Épaminondas. « Je te dis 100 fois merci !» Tu feras attention de ne pas le fatiguer pendant le voyage du retour. Sois tranquille. Dès que le village a disparu derrière les arbres, Épaminondas cueille une grande feuille de bananier dans laquelle il enveloppe le petit chien, attache soigneusement le paquet avec des lianes et délicatement le trempe dans l'eau de la première mare rencontrée. Le petit chien voit la tasse, s'étouffe, hoquette, tremblote, son poil est tout trempé, sa queue pendouille tristement et ses yeux sont gonflés et rougis. « Épaminondas, que m'apportes-tu là ?» demande sa mère. « C'est un petit chien que m'a offert Marraine Bas. » « Épaminondas, Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance ?»« Pour porter un petit chien, tu le poses par terre, tu prends une longue corde, tu attaches un bout de la corde au cou du chien et tu tires de l'autre côté, comme ça. As-tu compris ? Oui, maman. » Une semaine plus tard, le vent balaie la plaine. Quand Épaminondas arrive devant la case de sa marraine, son corps et son visage sont gris de poussière. « Mon garçon, n'apporte pas dans ma case la poussière de la brousse. Avant de remplir la première jarre, tu te verseras un seau d'eau sur la tête. » Après la sieste, Marraine Bas lui donne 2 belles galettes. « Fais bien attention à ce pain qui est encore tout chaud, tout doré, tout croustillant. » Dès qu'il rejoint la brousse, Épaminondas pose les galettes par terre, saisit une liane qui pend à un palmier, l'attache d'un côté aux galettes, de l'autre le serre dans sa main en tirant, comme ça. Et les galettes traînent dans la poussière, se fendillent, s'écornent, s'émiettent et deviennent une petite boule sale au bout de la liane. En voyant son fils arriver, la mère écarquille les yeux et s'exclame « Épaminondas, que m'apportes-tu là ? Du pain tout doré, tout croustillant que m'a donné ma marraine. Épaminondas, tu n'as pas de bon sens et tu n'en auras jamais. » C'est moi, maintenant, qui irai remplir les jarres chez ta marraine. La semaine suivante, pendant que le coq chante, le lever du jour, Épaminondas reste couché sur sa natte, la tête à moitié cachée sous ses couvertures. D'un œil, il regarde sa mère qui pose un grand voile sur sa tête, enfile ses sandales. Elle se dirige vers le four, elle en sort six pâtés qu'elle dépose sur le pas de la porte. Avant de partir, elle se retourne et explique à son fils. « Je mets les pâtés ici à refroidir. Aussi, quand tu sortiras, tu feras bien attention en passant dessus. As-tu bien compris ?» Lorsque sa mère a disparu, Epaminonda se lève, attache son pagne et se dit « Je vais être très obéissant et faire bien attention en passant sur les pâtés. » Avec une extrême attention, Epaminonda pose fermement un pied, puis l'autre, sur chaque pâté. Lorsque sa mère découvre les six pâtés soigneusement écrasés sur le seuil de la porte, sa main alors se remplit de gifles. Epaminondas ouvre de grands yeux effrayés. Au crépuscule, Epaminondas met dans son sac quelques coquillages, s'éloigne de la case et marche longuement dans la brousse à la lumière des étoiles. Arrivé au sommet d'une colline, il s'incline devant un vieux sorcier assis sous un frangipanier. Sous un fromager. « Sois le bienvenu, dit le sorcier. Qu'est-ce qui t'amène au milieu de la nuit ?»«
Je viens te demander la parole qui dit la vérité et t'offre ses coquillages pour faire un collier.
Que veux-tu savoir ?
Je veux savoir pourquoi, alors que je suis toujours très obéissant, je me fais toujours gronder par ma mère. »
Il raconte ses dernières aventures. Lorsque le sorcier eut entendu les malheurs d'Epaminondas, sa bouche se remplit de rire.
« Qu'as-tu dans la caboche, mon garçon ? À quoi te sert d'avoir des yeux sur le devant de la figure, si tu ne sais pas les utiliser ? Le rusé renard revient-il dans le poulailler ? Dont il a déjà mangé les poules ? »
Et comme Epaminondas le dévisage d'un air stupéfait, il ajoute
« Ne cherche plus à obéir sans réfléchir. C'est à chacun de trouver comment il doit agir. Maintenant, va en paix, le cœur tranquille et l'esprit éveillé. »
Et après cette histoire, on enchaîne avec une petite chanson.
C'est un kiki kiki, c'est un kiki kiki kiki, non, c'est un kiki kiki d'aller au lit dès maintenant. Je ne veux pas papa, je ne veux pas maman, je ne veux pas papa, je ne veux pas. Non, je ne veux pas papa, je ne veux pas maman. Si c'est comme ça, ah ça, je n'irai pas me laver les dents.
Comme tous les soirs sur Radio Sans Nous, on continue cette petite soirée en écoutant un chapitre de Harry Potter.
Chapitre 4. Le gardien des clés. Boum, boum. On frappa à nouveau. Dudley se réveilla en sursaut. « C'était un coup de canon ? » demanda-t-il bêtement. Il y eut un grand bruit derrière eux, et l'oncle Vernon entra dans la pièce en glissant par terre. Il tenait un fusil à la main. À présent, il savait ce que contenait le long paquet qu'il avait... Chapitre 4. Le gardien des clés. Poum, poum. On frappa à nouveau. Dudley se réveilla en sursaut. « C'était un coup de canon ? » demanda-t-il bêtement. Il y eut un grand bruit derrière eux et l'oncle Vernon entra dans la pièce en glissant par terre. Il tenait un fusil à la main. À présent, il savait ce que contenait le long paquet qu'il avait eu sous le bras la veille. « Qui est là ? » cria-t-il. « Je vous préviens, je suis armé !» Il y eut un instant de silence, puis... Crac ! On cogna sur la porte avec tant de force qu'elle fut arrachée de ses gonds et tomba à plat sur le sol dans un fracas assourdissant. Un véritable géant se tenait dans l'encadrement. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient comme deux scarabées noirs au milieu de ce foisonnement. Le géant se glissa à l'intérieur de la masure en inclinant la tête pour ne pas se cogner contre le plafond. Il se pencha, ramassa la porte et la remit sans difficulté sur ses gonds. Au dehors, le vacarme de la tempête s'était un peu atténué. Il se retourna et les regarda. « Si vous aviez une tasse de thé, ce ne serait pas de refus, » dit le géant. « Le voyage n'a pas été facile. » Il s'avança vers le canapé où Dudley était resté assis, pétrifié de terreur. « Bouge-toi un peu, gros tas !» dit-il. Dudley poussa un petit cri et courut se réfugier derrière sa mère, tout aussi terrifiée, qui se cachait elle-même derrière l'oncle Vernon. « Et voilà Harry !» dit le géant. Harry leva la tête vers son visage hirsute et vit de petites rides apparaître autour de ses yeux en forme de scarabée. Le géant souriait. « La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé, » dit-il. « Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta maman. » L'oncle Vernon laissa échapper un drôle de grognement. « Monsieur, j'exige que vous sortiez d'ici immédiatement, » dit-il. « Vous avez commis une violation de domicile, avec effraction. »« Ah, ça suffit, Dursley, espèce de vieux pruneau !» dit le géant. Il tendit le bras, arracha le fusil des mains de l'oncle Vernon, fit un nœud avec le canon aussi facilement que s'il avait été en caoutchouc et le jeta dans un coin de la pièce. L'oncle Vernon émit à nouveau un drôle de bruit, comme une souris sur laquelle on aurait marché. « Je te souhaite un bon anniversaire, Harry, » dit le géant en tournant le dos au Dursley. « Je t'ai apporté quelque chose. J'ai dû m'asseoir un peu dessus pendant le voyage, mais ça doit être très bon quand même. » Il tira d'une poche intérieure de son manteau noir une boîte en carton légèrement aplatie. Harry l'ouvrit en tremblant et découvrit à l'intérieur un gros gâteau au chocolat un peu fondu, sur lequel était écrit avec un glaçage vert et des fautes d'orthographe « Joyeux anniversaire, Harry ». Harry leva les yeux vers le géant. Il aurait voulu lui dire merci, mais les mots se perdirent dans sa gorge et il s'entendit demander « Mais qui êtes-vous ? » Le géant eut un petit rire. « Ah, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, » dit-il. « Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. » Il tendit une énorme main et serra celle de Harry en lui secouant le bras. « Et ce thé, il faudrait peut-être y penser, » dit-il en se frottant les mains. « Remarquez, si vous avez quelque chose de plus fort, je ne serai pas contre. » Son regard tomba sur la cheminée vide. En voyant les paquets de chips calcinés, il poussa un grognement et se pencha sur l'âtre. Personne ne put voir ce qu'il faisait, mais quand il se releva, un instant plus tard, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, projetant des lueurs dansantes dans la cabane humide. Harry sentit la chaleur se répandre autour de lui, comme s'il venait de plonger dans un bain chaud. Le géant se rassit sur le canapé qui s'écrasa sous son poids et sortit toutes sortes d'objets des poches de son manteau. Une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses ramollies, un tisonnier, une théière, des tasses ébréchées et une bouteille qui contenait un liquide ambré dont il avala une gorgée avant de préparer le thé. Bientôt, l'odeur des saucisses grillées qu'on entendait grésiller dans la cheminée se répandit dans la cabane. Tout le monde resta immobile et silencieux pendant que le géant s'affairait. Mais lorsqu'il fit glisser du tisonnier six grosses saucisses bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley commença à frétiller. « Dudley, ne touche à rien de ce qu'il te donnera !» dit sèchement l'oncle Vernon. Le géant eut un petit rire narquois. « Votre gros lard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley, ne vous inquiétez pas !» Il donna les saucisses à Harry qui avait tellement faim que rien ne lui avait jamais paru aussi délicieux. Mais il n'arrivait pas à détacher ses yeux du géant. Finalement, comme personne ne semblait décidé à lui donner la moindre explication, il rompit le silence. « Je suis désolé, » dit-il, « mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. » Le géant avala une gorgée de thé et s'essuya la bouche d'un revers de main. « Appelle-moi Hagrid, » dit-il, « comme tout le monde. Et je te l'ai dit, je suis le gardien des clés de Poudlard. Tu sais déjà ce qu'est Poudlard, j'imagine. »« Non, » répondit Harry. Hagrid parut scandalisé. « Désolé, » dit précipitamment Harry. « Désolé ?» aboya Hagrid en se tournant vers les Dursley qui se tassèrent sur eux-mêmes en essayant de disparaître dans la pénombre. « C'est eux qui devraient être désolés. Je savais que tu ne recevais pas les lettres, mais j'ignorais que tu n'avais même pas entendu parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ?»«
Tout ça quoi ?»«
Tout ça quoi ?» tonna Hagrid. « Attends un peu !» Il se leva d'un bond. Sa colère était telle qu'il semblait remplir tout l'espace de la cabane. Les Dursley s'étaient recroquevillés contre le mur. « Vous n'allez pas me dire, » rugit Hagrid, « que ce garçon, ne sait rien sur rien ?» Harry pensait qu'il exagérait. Après tout, il était allé à l'école et il avait toujours eu de bonnes notes. « Je sais quand même certaines choses, » dit-il. « J'ai fait des mathématiques et tout ça. Mais Hagrid eut un geste dédaigneux de la main. « Je voulais dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde, de mon monde, du monde de tes parents. »«
Quel monde ?»
Hagrid parut sur le point d'exploser. « Dursley !» hurla-t-il. L'oncle Vernon, le teint livide, marmonna quelque chose qui aurait pu vouloir dire.
« Mais non, mais quoi, mais pas du tout. »
Hagrid regarda Harry d'un air effaré.
« Il faut absolument que tu saches qui étaient ton père et ta mère, » dit-il. « Ils sont célèbres. Et toi aussi, tu es célèbre. »«
Quoi ? Mais mon père et ma mère n'ont jamais été célèbres. »«
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. »
Hagrid passa les doigts dans ses cheveux en fixant Harry d'un air abasourdi.
« Tu ne sais même pas qui tu es ? »
dit-il enfin. L'oncle Vernon retrouva soudain l'usage de la parole.
« Ça suffit ! » ordonna-t-il. « Ça suffit, monsieur ! Je vous défends de dire quoi que ce soit à ce garçon !»
Même un homme plus courageux que l'oncle Vernon aurait flanché devant le regard furieux que Hagrid lui adressa.
« Vous ne lui avez jamais rien dit ? »
reprit-il en détachant chaque syllabe d'une voix tremblante de rage.
« Rien dit du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui ? J'étais là ! J'ai vu Dumbledore déposer la lettre, Dursley. Et vous lui avez caché ça pendant toutes ces années.
Mais caché quoi ?
Dit précipitamment Harry.
Ça suffit ! Je vous interdis !
S'exclama l'oncle Vernon pris de panique. La tante Pétunia eut une exclamation d'horreur.
Je vais vous transformer en pâté tous les deux, lança Hagrid.
Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent.
« Je suis un quoi ?» balbutia Harry.
« Un sorcier, bien sûr !»
dit Hagrid en s'appuyant contre le dossier du canapé qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids.
« Et tu deviendras un sacré bon sorcier dès que tu auras un peu d'entraînement. Avec un père et une mère comme les tiens, ça peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. »
Harry tendit la main et finit par prendre l'enveloppe de parchemin jauni sur laquelle était écrit à l'encre vert émeraude. Monsieur Harry Potter, sur le plancher de la cabane au sommet du rocher, en pleine mer. Il ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur, Albus Dumbledore. Commandeur du Grand Ordre de Merlin. Docteur S. Sorcellerie. Enchanteur en chef. Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons eu le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Harry avait tellement de questions à poser qu'elles explosaient dans sa tête, comme un feu d'artifice. Il ne savait pas par où commencer, et il s'écoula quelques minutes avant qu'il se décide enfin à parler.
« Qu'est-ce que ça veut dire, nous attendons votre hibou ? » bredouilla-t-il.
« Mulgorgon, j'allais oublier !»
s'exclama Hagrid en se donnant sur le front une tape de la main qui aurait suffi à renverser un cheval de trait. D'une seconde poche intérieure de son manteau, il tira alors un hibou. Un vrai hibou bien vivant qui avait l'air un peu froissé. Une longue plume d'oie et un rouleau de parchemin. La langue entre les dents, il se mit à griffonner un mot que Harry, face à lui, parvint à lire à l'envers.
« Monsieur le directeur, j'ai donné sa lettre à Harry. Je l'emmène acheter ses affaires demain. Le temps est affreux. J'espère que vous allez bien. Hagrid. »
Hagrid roula le billet et le donna au hibou qui le prit dans son bec. Puis il alla ouvrir la porte et jeta l'oiseau au dehors, en pleine tempête. Il revint ensuite s'asseoir sur le canapé, comme si ce qu'il venait de faire n'était pas plus étonnant que de passer un coup de téléphone. Harry se rendit compte qu'il avait la bouche grande ouverte et il s'empressa de la fermer.
« Où en étais-je ? » dit Hagrid.
À ce moment, l'oncle Vernon, le teint toujours grisâtre mais l'air furieux, vint se poster devant la cheminée.
« Il n'est pas question qu'il s'en aille » dit-il.
Hagrid poussa un grognement.
« J'aimerais bien voir qu'un moldu dans votre genre s'avise de l'en empêcher, » dit-il.
« Un quoi ?» demanda Harry, intéressé.
« Un moldu, » dit Hagrid. « C'est comme ça que nous appelons les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Et manque de chance, t'as grandi dans la plus incroyable famille de moldus que j'ai jamais rencontrée. Quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces balivernes, » dit l'oncle Vernon. « Jurés qu'on allait le débarrasser de tout ça. Un sorcier !» Et puis quoi encore ? Vous saviez ? S'écria Harry. Vous saviez que je suis un sorcier ?
Nous le savions ! Hurla soudain la tante Pétunia d'une voix perçante. Bien sûr que nous le savions !
Comment aurait-il pu en être autrement, quand on sait ce qu'était ma maudite sœur ? Un jour, elle a reçu une lettre, exactement comme celle-ci, et elle est partie dans cette école. Quand elle revenait à la maison pour les vacances, elle avait les poches pleines de tétards, et elle changeait les tasses de thé en rats d'égout. J'étais la seule à la voir telle qu'elle était. Un monstre. Mais avec mon père et ma mère, il n'y en avait que pour elle, c'était Lily par-ci, Lily par-là. Ils étaient si fiers d'avoir une sorcière dans la famille.
Elle s'interrompit pour respirer profondément, puis elle reprit sa tirade. On aurait dit qu'elle avait attendu des années avant d'oser dire tout ce qu'elle avait sur le cœur.
« Et puis, elle a rencontré ce Potter à l'école, » reprit-elle. « Ils se sont mariés, et tu es arrivée. Moi, je savais bien que tu serais comme eux, aussi bizarre aussi, anormal. Et pour finir, quelqu'un l'a fait exploser, et on a hérité de toi. »
Harry était devenu très pâle. Il mit un certain temps à retrouver sa voix.
« Exploser ? Mais vous m'avez toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. »«
Un accident de voiture ?» rugit Hagrid,
en sursautant si violemment que les Dursley retournèrent se terrer dans un coin de la cabane.
« Comment un simple accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter ? C'est une insulte, un scandale ! Harry Potter ne connaît même pas sa propre histoire, alors que dans notre monde, tous les enfants connaissent son nom. »«
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Harry, avide de savoir. La colère disparut du visage de Hagrid. Il eut soudain l'air très mal à l'aise.
« Je ne m'attendais vraiment pas à ça, » dit-il d'une voix inquiète. « Quand Dumbledore m'a prévenu qu'il ne serait peut-être pas facile de te ramener, je ne doutais pas que tu n'étais au courant de rien. Ah, Harry, je me demande si c'est moi qui suis le mieux placé pour te révéler tout ça. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu ne peux pas aller à Poudlard sans savoir. »
Il lança un regard noir aux Dursley.
« Je vais essayer de te dire ce que je peux. » Mais je pourrais pas tout dire. Il y a de trop grands mystères derrière tout ça. »
Il se laissa aller contre le dossier du canapé et contempla le feu pendant quelques instants avant de commencer son récit. Toute l'histoire commence à cause d'un personnage qui s'appelle. C'est vraiment incroyable que tu n'aies jamais entendu son nom, alors que dans notre monde, chacun connaît.
« Connaît qui ?» demanda Harry.
« Je n'aime pas prononcer son nom quand je peux l'éviter. Personne n'aime ça.
Pourquoi ?»
Nom d'une gargouille, Harry. Tout le monde a encore peur. Ah, bougre de diable, c'est tellement difficile. Voilà. Il y eut un jour un sorcier qui a mal tourné. Très, très mal tourné. Pire que ça, même. Pire que tout ce qu'on peut imaginer de pire. Il s'appelait...
Hagrid avala sa salive, mais aucun nom ne sortit de sa bouche.
Vous pourriez peut-être l'écrire, suggéra Harry.
Non, non, je peux pas l'épeler. Bon... « Allons-y. Il s'appelait Voldemort. »
L'immense corps du géant fut parcouru d'un frisson.
« M'oblige pas à le répéter, » dit-il. « Il y a une vingtaine d'années, ce sorcier a commencé à chercher des adeptes. Et il a réussi à en avoir. Certains l'ont suivi parce qu'ils avaient peur. D'autres voulaient simplement profiter de son pouvoir, parce que des pouvoirs, il en avait. »
C'était une sombre époque, Harry. On ne savait plus à qui faire confiance. On n'osait pas se lier d'amitié avec les sorciers ou les sorcières qu'on connaissait pas bien. Il s'est passé des choses terribles. Il prenait le pouvoir sur les autres. Oh, bien sûr, il y en avait encore qui lui résistaient, mais il les tuait. Et d'une manière effroyable. L'un des seuls endroits où on était encore en sécurité, c'était Poudlard. Je crois bien que Dumbledore était le seul qui arrivait à faire peur à tu sais qui. Il a jamais osé s'attaquer à l'école, pas à ce moment-là en tout cas. Ton père et ta mère étaient d'excellents sorciers. Toujours premier de la classe à Poudlard, à l'époque où ils étaient étudiants. Le mystère, c'est pourquoi tu sais qui a attendu si longtemps pour essayer de les amener dans son camp. Sans doute parce qu'ils étaient trop proches de Dumbledore pour avoir quelque chose à faire dans le monde des ténèbres. Et puis, il a fini par croire qu'il parviendrait à les convaincre. Ou alors, il voulait simplement se débarrasser d'eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le jour de Halloween... Il s'est rendu dans le village où vous habitiez tous les trois. Tu avais juste un an. Il est arrivé devant votre maison et... Hagrid sortit soudain un mouchoir à pois très sale et se moucha en faisant un bruit de corne de brume.
Excuse-moi, dit-il, mais c'est tellement triste. Je connaissais ton papa et ta maman, et c'était les gens les plus charmants qu'on puisse imaginer. Enfin, c'est comme ça. Tu sais qui les a tués. Ensuite, et c'est là qu'est le vrai mystère, il a essayé de te tuer aussi. Il voulait sans doute faire le travail jusqu'au bout. Ou alors il aimait tuer, tout simplement. Mais il n'a pas réussi. Tu ne t'es jamais demandé d'où te venait la cicatrice que tu as sur le front? Ce n'est pas une blessure ordinaire. C'est la trace du mauvais sort qu'il a lancé contre toi. Un mauvais sort si puissant qu'il a détruit tes parents et leur maison. Mais avec toi, ça n'a pas marché. Et c'est pour cette raison que tu es célèbre, Harry. Personne n'a jamais pu lui échapper parmi ceux qu'il avait décidé de tuer. Personne sauf toi. Et pourtant, il a supprimé quelques-uns des plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Les McKinnon, les Bones, les Pruett. Mais toi, tu n'étais qu'un bébé. Et tu as survécu. Il se passait quelque chose de très douloureux dans la tête de Harry. À mesure que Hagrid approchait de la fin de son récit, il revoyait l'éclair de lumière verte plus nettement que jamais. Et, pour la première fois de sa vie, il se rappelait aussi un rire cruel, sonore, glacé. Harry le regardait avec tristesse. « C'est à moi que Dumbledore a confié la mission d'aller te chercher dans les maisons en ruine. Et c'est comme ça que je t'ai amené chez ces gens. »« Tout ça n'est qu'un morceau de faribole !» s'exclama l'oncle Vernon. Harry sursauta. Il avait presque oublié la présence des Dursley. L'oncle Vernon semblait avoir retrouvé tout son courage. Les poings serrés, il lança à Hagrid des regards furieux. « Maintenant, écoute-moi bien, mon garçon, » lança-t-il à Harry. « Je veux bien qu'il y ait chez toi quelques bizarreries, mais il suffirait d'une bonne correction pour arranger tout ça. Quant à tes parents, c'était de drôles de zigotos, sans aucun doute. Et à mon avis, le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient, à force de fréquenter ces espèces de magiciens. Je le savais bien d'ailleurs. J'étais sûr qu'il finirait mal. » Hagrid bondit alors du canapé, tira de son manteau un vieux parapluie rose passablement délabré et le pointa sur l'oncle Vernon comme une épée. « Je vous préviens, Dursley, » rugit-il. « Je vous préviens. Un mot de plus et... » La perspective de se retrouver embroché au bout d'un parapluie par un géant barbu fit perdre tout son courage à l'oncle Vernon. Il s'aplatit contre le mur et n'osa plus dire un mot. « J'aime mieux ça !» dit Hagrid en respirant profondément. Il se rassit sur le canapé qui s'écrasa contre le sol. Mais Harry avait encore une foule de questions à poser. « Et qu'est-il arrivé à Vol ? Enfin, je veux dire à vous savez qui ?»«
Bonne question, Harry. Il a tout simplement disparu. Il s'est volatilisé la nuit même où il a essayé de te tuer, ce qui ajoute encore à ta réputation. Qu'est-il devenu, lui qui semblait au sommet de sa puissance ? Mystère. » Mystère. Certains disent qu'il est mort. À mon avis, ce sont des calembredaines. Je crois pas qu'il ait eu en lui quelque chose de suffisamment humain pour mourir. D'autres pensent qu'il est toujours quelque part, à attendre son heure. Mais j'y crois pas non plus. Ceux qui s'étaient ralliés à lui sont revenus de notre côté. Certains avaient été plongés dans une sorte de transe. Je pense pas qu'il aurait réussi à s'arracher à lui s'il était revenu. La plupart d'entre nous croient qu'il est toujours vivant, mais qu'il a perdu ses pouvoirs. Il est trop faible pour continuer. Il y a en toi quelque chose qui l'a détruit, Harry. Cette nuit-là, il s'est passé un phénomène auquel il ne s'attendait pas. Je ne sais pas ce que c'était, personne ne le sait, mais tu as réussi à le réduire à rien. »
Une lueur de respect et de sympathie brillait dans le regard de Hagrid. Mais Harry, au lieu de ressentir de la fierté, avait la certitude que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Lui, un sorcier ? Comment serait-ce possible ? Toute sa vie, il avait été brutalisé par Dudley et malmené par l'oncle Vernon et la tante Pétunia. S'il était vraiment un sorcier, pourquoi ne les avait-il pas changés en crapauds couverts de verrues chaque fois qu'il l'enfermait dans son placard ? S'il avait été capable de vaincre le plus grand sorcier du monde, comment se faisait-il que Dudley ait pu le traiter comme un ballon de football ?
« Hagrid, dit-il, je crois que vous avez fait une erreur. Je ne suis pas un sorcier. »
À sa grande surprise, Hagrid éclata de rire.
« Pas un sorcier ? Rappelle-toi, il ne s'est jamais rien passé quand tu avais peur ou que tu étais en colère ?»
Harry contempla le feu dans la cheminée. Maintenant qu'il y pensait, toutes ces choses étranges qui rendaient furieux son oncle et sa tante s'étaient toujours produites lorsqu'il était furieux ou sous le coup d'une émotion. Poursuivi par la bande de Dudley, il s'était soudain retrouvé hors de leur portée. Paniqué à l'idée d'aller à l'école avec sa coupe de cheveux ridicule, il avait réussi à faire repousser sa tignasse. Et la dernière fois que Dudley l'avait frappé, ne s'était-il pas vengé, sans même s'en rendre compte, en lâchant sur lui le boa constrictor ? Harry leva à nouveau les yeux vers Harry. Il lui sourit et vit que le géant rayonnait.
« Tu vois, » dit Hagrid, « Harry Potter, pas un sorcier. Attends donc d'être à Poudlard et tu verras comme tu es célèbre. »
Mais l'oncle Vernon ne voulait pas abandonner la partie.
« Je vous ai déjà dit qu'il n'ira pas là-bas, » dit-il d'une voix sifflante. « Il fera ses études au collège de son quartier et il nous en sera très reconnaissant. J'ai lu ses lettres. » Et j'ai vu toutes les sottises qu'on l'obligeait à acheter. Des grimoires, des baguettes magiques, des... « S'il a envie d'y aller, ce n'est pas un gros moldu dans votre genre qui pourra s'y opposer, » grogna Hagrid. « Vous vous croyez suffisamment fort pour empêcher le fils de Lily et James Potter de faire ses études à Poudlard ? Vous êtes fou ! Il y est inscrit depuis sa naissance. Il va étudier là-bas dans la meilleure école de sorcellerie du monde. 7 ans là-bas et il sera transformé. Pour changer, il aura des camarades qui appartiennent au même monde que lui. » Et il étudiera avec l'un des plus grands maîtres que le collège Poudlard ait jamais connu. Abuse, Dumbledore. Je refuse de payer un sou pour qu'un vieux cinglé lui apprenne des tours de magie !» s'écria l'oncle Vernon.
Mais cette fois, il était allé trop loin. Hagrid empoigna son parapluie et le fit tournoyer au-dessus de sa tête.
« Jamais plus insulter Albus Dumbledore devant moi »
tonna-t-il. Il abattit le parapluie dans un sifflement et le pointa sur Dudley. Il y eut un éclair violet, une détonation comme un pétard qui explose et un petit cri aigu. Un instant plus tard, Dudley dansait sur place en hurlant de douleur, les mains plaquées sur son volumineux postérieur. Lorsqu'il leur tourna le dos, Harry vit qu'une petite queue de cochon en tire-bouchon lui avait poussé à travers son pantalon. L'oncle Vernon laissa échapper un véritable rugissement. Il attrapait aussitôt Dudley et la tante Pétunia et les entraîna dans l'autre pièce. Puis il jeta un dernier regard terrifié à Hagrid et claqua la porte. Hagrid regarda le parapluie en se caressant la barbe.
« Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, » dit-il d'un ton de regret. « Mais de toute façon, ça n'a pas marché. Je voulais le changer en cochon, mais il ressemble déjà tellement à un cochon qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. »
Il lança un regard oblique à Harry sous ses sourcils broussailleux.
Si tu pouvais éviter de raconter ça à qui que ce soit à Poudlard, je t'en serais reconnaissant. Normalement, je ne suis pas censé faire de la magie. On m'a simplement donné l'autorisation de m'en servir un peu pour te retrouver et t'apporter tes lettres. C'est pour ça que j'étais tellement content qu'on me confie cette mission.
Pourquoi vous n'êtes pas censé faire de la magie ? Demanda Harry.
Disons que moi aussi, j'ai été élève à Poudlard, mais pour dire la vérité, on m'a renvoyé. J'étais en 3e année. Ils ont cassé ma baguette magique en 2 et tout ça, mais Dumbledore m'a permis de rester comme garde-chasse. Un grand homme, Dumbledore.
Pourquoi on vous a renvoyé ?
Il se fait tard, et on aura beaucoup de choses à faire demain, dit Hagrid d'une voix forte. Il faut qu'on aille en ville, acheter tes livres et tout le reste.
Il ôta son grand manteau noir et le jeta à Harry.
Tu n'as qu'à dormir là-dedans, dit-il. Ne t'inquiète pas s'il remue un peu. Il doit y avoir 1 ou 2 loirs dans une de mes poches. « Mange donc une saucisse. Elles ne sont pas mauvaises quand elles sont froides. Et moi, je mangerai bien un bout de ton gâteau d'anniversaire. »